m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, courtoisie. Oui.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois du jeudi, le Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau aujourd'hui avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Marc.
Et Étienne Darjac, éditorialiste bien connu des ondes de cette radio et particulièrement de cette émission. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Marc.
Et beaucoup d'invités durant cette émission, chers auditeurs, puisque nous recevrons à 17h45 le Jean-Paul Gourevitch, essayiste, qui publie notamment une étude très intéressante sur le coût de l'immigration étudiante. En effet, 450 000 étudiants étrangers sont venus étudier en France pour l'année 2025-2026, et Jean-Paul Gourevitch propose un bilan comptable un petit peu de cette opération et voir à quel point ces largesses pèsent sur les finances publiques. Nous recevrons ensuite à 18h Nicolas Boutin, avec qui nous reviendrons sur le dernier numéro de Valeurs Actuelles, puisque nous avons consacré un gros dossier sur la façon dont les dealers et les trafiquants de drogue, les narcotrafiquants, montent à l'assaut des mairies. Comment est-ce que ces réseaux criminels essayent de s'implanter au sein même des hôtels de ville. On y reviendra avec Nicolas Boutin. Ensuite, nous recevrons à 18h15 Tuguel Denis, qui n'est rien de moins que le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et qui publie les Cendres et le Feu, un essai, un roman presque intime de la droite française. Et avec nous, nous aurons donc Tuguel Denis, nous aurons Valentin Gore et Étienne Darjac, mais également François Devoyer, éditorialiste que vous connaissez bien, et Stanislas Rigaud, ancien président des Jeunes avec Zemmour et cofondateur de l'entreprise Nexus. Avec eux, nous reviendrons justement sur l'histoire de cette droite, puisque nous aurons la chance d'avoir plusieurs générations réunies sur le même plateau. Enfin, à 19h, nous parlerons de la Corse avec Nicolas Battini, président de Mossa Palatina, conseiller municipal de Bastia et allié insulaire du Rassemblement National. Voilà pour le programme de cette émission, chers amis. D'ici 17h45, nous avons beaucoup de sujets à mettre sur la table, notamment un dernier sondage présidentiel. Alors c'est évidemment un de plus, on a envie de dire Valentin Gore, mais un sondage qui confirme une tendance largement partagée. Jordan Bardella tue le match, en fait.
Oui, vous l'avez dit, dans un sondage à près d'un an de l'échéance, avec je crois 36%, hein, c'est ça, d'intention de vote contre le second, qui serait donc Édouard Philippe, hein, si j'ai bien compris, à 19%.
Édouard Philippe qui serait à maximum 19%.
Ouais, 19% oui. Maximum. Bon, ben ça c'est évidemment l'écueil des sondages, c'est-à-dire que la campagne n'ayant pas encore commencé, contrairement à ce que même les candidats donnent l'impression de penser, puisque tout le monde fait déjà des meetings, mais enfin, à mon avis, ça va encore beaucoup bouger, hein, parce que on sait qu'en 2022, les choses ont été assez stables, parce qu'il y avait aussi un président sortant qui se représentait. L'élection de 2017, qui est la dernière fois où il n'y avait pas de président sortant, a quand même été tout à fait bouleversante à bien des égards. Je rappelle qu'à ce moment-là, un an avant, à l'été précédent, c'était plutôt Alain Juppé qui était prévu pour l'emporter. On a vu ce qu'il en a été.
Et vous faites bien de dire que la campagne n'a pas commencé, Valentin Gore, puisque, on le rappelle, Étienne Darjac, pour concourir à l'élection présidentielle, il faut 500 signatures.
Eh oui.
Donc pour l'instant, toutes ces personnalités testées dans les sondages ne sont officiellement pas candidats à l'élection présidentielle, et rien ne garantit pour beaucoup d'entre eux qu'ils puissent effectivement l'être.
Oui, même si pour y a une bonne partie des candidats pour lesquels on a peu de doutes. Je pensais évidemment à Jordan Bardella ou Marine Le Pen et Mélenchon, les grands ténors de la vie politique. C'est sûr que pour les candidats un peu qui tentent leur chance en seconde ligne, ça pourrait être plus compliqué. Je pense par exemple à des gens comme Raphaël Glucksmann, même s'il a le soutien du Parti Socialiste. Voilà, comme en fait pour tous les candidats qui se posent dans l'alternative de leur propre camp, ou les candidats indépendants. J'ai le seul candidat indépendant qui part tout seul avec son parti, qui est à peu près sûr de les avoir, c'est peut-être David Lisnard, grâce à sa présidence de l'AMF, on imagine qu'il a le réseau nécessaire pour avoir les 500 signatures. En dehors de ça, rien n'est fixé. Moi, ce qui me frappe dans ce sondage, c'est, bon, évidemment, les scores, j'allais dire presque dictatoriaux, du Rassemblement National dans son ensemble, hein, parce que c'est le cas pour Jordan Bardella, comme pour Marine Le Pen, à quelques nuances près. Ce qui me frappe,
Le Pen
surtout...
est plutôt testé aux alentours de 33-34, voilà, et Jordan Bardella 36,
pauvre.
Ce qui ne change
c'est
pas.
Tout, c'est
voilà, ce qui, il est vrai.
Quelle humiliation.
Ne change pas grand chose, ne change pas grand chose au résultat du
non, moi, ce qui me frappe au-delà de ça, c'est la, en fait, malgré les dépenses d'énergie folles de tous les candidats, néo-candidats, putatifs candidats, en meeting, en déclaration, en offensive, ce qui me frappe, c'est la stabilité relative, en fait, de la scène politique. On peut dire qu'on entre déjà dans le deuxième ou troisième mois de pré-campagne, on va dire.
On peut appeler ça comme ça, voilà, à défaut d'autre chose. Ouais.
Et finalement, les rapports de force n'ont pas tellement bougé. Le résumé, c'est quoi ? Le RN écrase le match. Rien n'est très décidé dans le camp macroniste, même si Édouard Philippe conserve toujours un peu une avance relative. Et à gauche, Mélenchon écrase le match. Bon, bah voilà, il y a trois mois, c'était exactement la même chose.
Et on revient finalement à cette. C'est assez amusant parce que on sent que tout le monde est pressé d'en finir avec le macronisme, hein, d'une manière ou d'une autre.
À commencer par les macronistes, d'ailleurs.
Pour les macronistes eux-mêmes qui se disent qu'il y a pas de c'est beaucoup, pourquoi pas. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en plus, on voit ce vieux monde qui est en recherche de revanche, puisque c'est dingue de se dire qu'on est 10 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, enfin presque 10 ans, et on se retrouve avec des François Hollande, des Xavier Bertrand, des Bruno Retailleau. Dans l'absolu, Bruno Retailleau n'a jamais été candidat à l'élection présidentielle, mais c'est quand même un vieux nom de la politique française. On sent finalement cette espèce de revanche du vieux monde qui tente un retour, Valentin Gore.
Oui, revanche du vieux monde qui finalement est toujours le monde actuel, parce que ce qui est très singulier avec Emmanuel Macron, c'est qu'on s'est rendu compte que cette affaire de nouveau monde, c'était quand même beaucoup une rustine, et que c'est même dans ce second mandat depuis 2024, le très ancien monde qui est revenu au pouvoir, presque celui de la 4ème République, avec des alliances grosso modo de partis qui officiellement, je rappelle quand même qu'il y a encore des ministres LR au gouvernement.
Absolument.
Qui sont officiellement suspendus.
Le fameux socle commun.
Enfin, on sait très bien qu'ils sont toujours, j'allais dire, dans les faits, membres de LR malgré tout. Il n'y a pas de rupture. Donc tout ça est un peu plus compliqué que ça. Et à mon avis, Emmanuel Macron, c'est vraiment l'incarnation du très vieux monde et presque de la pensée d'Alain Poher, hein, ce qui n'a pas beaucoup évolué depuis ce moment-là. Donc c'est un peu le problème.
Alors, parmi tous ces candidats, il y en a un évidemment qui a fait beaucoup parler de lui à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, puisque le candidat à l'élection présidentielle pour la France Insoumise a tenté une opération réhabilitation dans marge de la fête de la musique. Alors, on se rappelle que quelques heures après cette fameuse marche contre le racisme initiée par le maire de Saint-Denis, Badi Bagayoko, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont tenu leur propre fête de la musique. Alors déjà, un événement parfaitement réussi sur le plan politique, parce qu'il devait être interdit, finalement il a été autorisé, donc première victoire pour Jean-Luc Mélenchon, qui en a profité pour faire monter sur scène le député de Vaucluse, Raphaël Arnaud, dont on rappelle que les collaborateurs parlementaires sont soupçonnés, pour certains incarcérés, dans le cadre de l'assassinat de Quentin Derenck. Donc Raphaël Arnaud qui fait son retour sur scène, et qui est ovationné évidemment par la foule, et qui est soutenu à fond par l'intégralité des membres de son parti politique. Étienne Darjac, plus c'est gros, plus ça passe.
Plus c'est gros, plus ça passe. Ça pourrait être un bon résumé de la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon depuis sans doute 2022, hein, qui marque un tournant très profond dans sa manière de la faire de la politique, même s'il y avait déjà eu des évolutions avant. Avec Raphaël Arnaud et l'affaire Derenck, on a quand même franchi un cap symbolique. Un cap symbolique durant lequel la gauche mélenchoniste a fait la démonstration de son jusqu'au boutisme, et j'allais dire de sa pureté idéologique. Il y a dans la gauche mélenchoniste un esprit clanique, un esprit de citadelle assiégée, avec cette menace du fascisme qui a littéralement été érigée en religion, hein. L'antifascisme est devenu une religion mélenchoniste.
Un dogme
avec ses cultes, avec ses slogans, avec ses... Et il faut suivre un peu ce qu'en disent les militants mélenchonistes, les influenceurs, les streamers, ce que vous voulez. Il faut les écouter. Enfin, on dirait les peurs millénaristes de l'an 1000, si vous voulez. C'est assez fascinant.
Donc, tant qu'ils ne se mettent pas à construire des cathédrales, écoutez...
Voilà, oui, ça, il n'y a pas de risque. Donc, dans ce cadre-là, la réalisation de Raphaël Arnaud, c'est la suite logique. si on, enfin, faut quand même se mettre dans la tête des gens. Depuis 3 ans, on leur présente l'extrême droite comme le mal absolu.
Ouais.
Littéralement, le diable sur terre. Donc, à partir de ce moment-là, Raphaël Arnaud, qu'est-ce qu'il a fait sinon quelque chose de bien? Mais au fond, lui et ses collaborateurs, c'est dans cet état d'esprit-là, ils sont, que sont les mélenchonistes et ses collaborateurs et ses militants. En revanche, ce qui est aujourd'hui très bien accueilli par les militants parce qu'ils sont radicalisés dans ce sens-là, le sera sans doute moins, encore une fois, je le disais la dernière fois, quand la campagne présidentielle sera vraiment lancée. Pour l'instant, Mélenchon est chez lui, confortable, dans un duel à gauche qu'il a remporté d'avance face à des adversaires qui pèsent 3,5 grammes. Il fera sans doute moins, prendra moins de largesse une fois la présidentielle lancée.
Valentin Gore, on peut effectivement se dire que ce qui est effrayant avec cette rhétorique, c'est que dans le fond, Charlie Kirk méritait de mourir, Quentin de Ranck méritait de mourir, et qu'au fond, tout ce qui est défini comme fasciste doit mourir en quelque sorte. Et ce qui est terrible quand on écoute justement la Jeune Garde, Raphaël Arnaud et tous leurs affidés, c'est que la notion de fascisme est en réalité assez vaste. Elle va du centre jusqu'au Rassemblement National. Dans l'absolu, un militant des Républicains, pour ces gens-là, c'est un fasciste déjà. Bruno Retailleau est un fasciste.
Ah oui, même au-delà, je crois que même des gens...
Xavier Bertrand.
Voilà, même des gens de... Alors, Xavier Bertrand étant presque quelqu'un de gauche, mais je crois que même pour les plus radicaux des Insoumis, il y a des personnalités même de gauche, comme Manuel Valls,
François Ruffin,
ou François Ruffin,
qui est un traître,
qui peuvent être un des traîtres, voire suspectés, d'après ces gens-là, de plus ou moins pactisés avec ce que serait un nouveau fascisme à la française. Donc là, on voit bien qu'il y a ce que Clausewitz appelait la montée aux extrêmes, c'est-à-dire qu'on va toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus dans le ridicule aussi, hein, voilà, avec des théories qui finissent par devenir complètement folles. Puis paradoxalement, vous l'avez dit, c'est qu'il y a quand même cet enjeu pour Jean-Luc Mélenchon qui, s'il veut ne pas se contenter seulement de faire un bon score de premier tour, qu'il peut faire en menant une campagne très radicale, il doit élargir, même c'est un peu rentré, je crois, dans son logiciel, essayer de parler un petit peu aux retraités pour aller grappiller peut-être 2, 3, 4% chez ces gens-là. Ça va être très difficile en maintenant un cap aussi extrême et même extrémiste. Donc ça, on va voir, est-ce qu'il va réussir à jouer sur les deux tableaux, comme François Mitterrand l'avait fait un peu en 1980, où il arrivait à la fois à parler aux communistes et à des gens qui étaient presque du centre et même parfois un peu de la droite modérée. Ça va être un enjeu intéressant à suivre.
On va continuer un petit peu sur cette lancée. Il y en a un qui est un peu plus seul ces derniers temps, c'est Raphaël Luxman, puisque, alors c'est vous dire à quel point déjà il était très peu entouré, parce que je vais vous dire le nom, je pense que la moitié de nos auditeurs ne sauront pas qui c'est, mais c'est Aurélien Rousseau qui vient de quitter l'état-major un petit peu de la future campagne présidentielle de Raphaël Glucksmann. Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, pour ne pas dire celui qui a conçu la réforme des retraites d'ailleurs, qui siège aujourd'hui au Parti Socialiste et qui est chez Place Publique.
Qui était ministre de la Santé aussi, non ?
Qui était ministre de la Santé, effectivement.
Et qui était communiste avant tout ça. Hein. Il était adhérent du Parti Communiste. Donc c'est quelqu'un de très stable, visiblement.
Tandis que le macronisme est un vieux monde.
Et j'ai le beau-frère de Pierre Cazeneuve et le gendre de Jean-René Cazeneuve. Le père et le fils, tous les deux députés Renaissance, c'est ça qui est formidable.
Ils n'ont eux-mêmes pas de lien familial avec Bernard Cazeneuve.
C'est compliqué la politique. Est-ce que Raphaël Glucksmann peut concurrencer Jean-Luc Mélenchon? Question très simple, en 1 minute chacun, tiens, été Norjac.
Non.
Voilà.
Non, il ne peut pas concurrencer Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense qu'il n'y a personne en France qui hésite entre un vote Mélenchon et un vote Glucksmann, ça c'est certain. Mais il peut concurrencer d'autres candidats, comme on l'a cité tout à l'heure, quelqu'un comme Édouard Philippe, des gens qui sont plus au centre. On voit bien d'ailleurs que pour Raphaël Glucksmann, le match, s'il doit y avoir, il va plus se jouer au sein de l'immense bloc central qui, plus il se rétracte électoralement, plus il s'étend politiquement pour essayer de faire entrer le plus de monde possible. Donc on voit bien que c'est plutôt avec ces gens-là que M. Glucksmann va devoir travailler plutôt qu'avec une gauche qui finalement le rejette.
Et vous voyez ce qui est terrible, Étienne Darjac, c'est qu'il y a donc un nombre significatif d'électeurs qui, alors il y a des ténors de la vie politique, des discours, la France se radicalise de partout, et on a des électeurs en France qui sont redescendants entre Raphaël Glucksmann et Édouard Philippe. Moi je trouve ça absolument fascinant.
Où sont si ces on gens, a envie vraiment d'un shot de radicalité, on va aller vers Bruno Retailleau, vous voyez, mais ça, là c'est pas à conseiller à tout le monde.
Non mais c'est ça, il faut un choc, il faut voter Glucksmann, enfin je veux dire,
qui peut tenir
ce raisonnement.
Je me faisais cette question, je sais pas si vous avez vu sur X,
Twitter,
comme voilà. Récemment, il y a eu quelques photos et vidéos qui sont sorties d'un honorable gamin dont j'ai oublié le nom, qui se trouve être le responsable des jeunes de l'UDI.
Oui.
Ah oui, j'ai vu.
Vous avez vu,
il y a les jeunes avec Hollande aussi.
Oui, alors exceptionnel.
Une belle compétition pour organiser un débat.
Ils ont pas essayé les jeunes avec Glucksmann, je crois pas.
Et vraiment, je suis moi-même, je crois encore appartenir à la catégorie jeune.
Allez, on vous l'accorde.
J'espère. Je peux tout à fait comprendre qu'on soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche, même macroniste, après tout, c'est le pouvoir, c'est voilà. L'UDI. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, je veux dire.
Il y a quand même quelques postes au Sénat, quelques postes de ministres, quelques postes d'élus locaux, de députés.
Si à 25 ans, vous rêvez d'avoir un poste au Sénat, enfin, je veux dire.
Mais c'est pour ça que j'ai parlé d'Edouard Philippe et pas Raphaël Glucksmann. Vous voyez, j'ai même pas mis Gabriel Attal dedans, parce que je me dis, allez, mettons, Attal peut attirer un petit peu.
Il y a un petit côté modernité.
Il y a la jeunesse,
voilà,
j'ai été Premier ministre, pour certaines polémiques, il n'a pas hésité parfois à nommer les choses, même s'il ne faisait rien derrière. Enfin, je veux dire, Attal, je comprends encore. Oui. C'est vrai que hésiter entre Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann, c'est vraiment un logiciel assez étrange. Mais assez parlé de choses légères et peu importantes comme la politique, et tournons-nous vers la réalité. Mais pour cela, nous accueillons Jean-Paul Gourevitch. Bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir, je vais bien, je vous écoute.
Bien, et vous nous entendez bien, c'est formidable. Vous avez publié avec Contribuables Associés, donc la 53e étude de Contribuables Associés, très exactement, combien nous coûtent et nous rapportent les étudiants étrangers en France. C'est vrai que c'est une vraie question, Jean-Paul Gourevitch, puisque Emmanuel Macron, ça a été un de ses grands sujets. Il a notamment parlé d'élargir Erasmus à l'Afrique du Nord. En tout cas, ces étudiants qui viennent se former en France, c'est une vraie fierté pour les gouvernements successifs, mais derrière on s'aperçoit grâce à vous que la réalité est beaucoup moins idyllique. En effet, cela coûte très cher.
Je ne vous entends plus.
Ah. Est-ce que vous nous entendez ? Ah. On a perdu Jean-Paul Gourevitch. Ah, c'est bon, vous êtes de retour, formidable. En fait, on s'aperçoit qu'en réalité, le coût de ces étudiants étrangers, 450 000 étudiants étrangers en 2025-2026, est extrêmement élevé, Jean-Paul Gourevitch.
Alors, le coût, si on fait la différence entre ce qui nous coûte et ce qui nous rapporte, effectivement, il nous coûte un peu plus de 2,2 milliards, selon l'étude que j'ai faite pour Contribuables Associés, et qui vient en contradiction avec ce que vous allez trouver sur le net en première ligne, qui est une étude faite par Campus, qui est un organisme lié au gouvernement, et qui prétendait que les étudiants étrangers rapportaient 5 milliards à la France et que, le bénéfice de l'État était de plus d'1,3 milliard. Or, c'est un mensonge tellement gros que la Cour des comptes, qui pourtant a un langage relativement diplomatique, a considéré que le rapport Campus mélange tout et ne peut pas être considéré comme un document de référence.
C'est terrible quand même, parce que c'est quand même payé par, enfin, c'est quelque chose de public, Campus, quoi.
Oui, seulement Campus est payé par l'État, et il avait besoin très probablement de montrer que cela rapportait d'accueillir des étudiants étrangers.
Donc l'État... Attendez, Jean-Paul Gourevitch, excusez-moi de vous interrompre, parce que c'est très important que les auditeurs comprennent, c'est que nous payons un organisme pour qu'ensuite la Cour des comptes, un autre organisme que nous payons, dise que le premier organisme que nous payons raconte n'importe quoi. C'est quand même terrible.
C'est très étonnant, et la Cour des comptes, vous le savez, a un langage très diplomatique.
Absolument.
Mais les trois erreurs de Campus sont énormes. Campus s'est fondé sur la consommation des étudiants. Mais la consommation des étudiants, elle ne va pas totalement aux finances de l'État.
Ouais.
Il n'y a que par la TVA et par les taxes qu'elle va aux finances de l'État. Campus, en deuxième point, a fait croire que tous les étudiants étrangers payaient les droits différenciés. C'est-à-dire qu'ils payaient tous 2890 euros pour leur inscription. Or, tout le monde a démontré que moins de 10% de ces étudiants payent en fait des droits différenciés.
Mais ce qui ne les empêche pas de continuer leurs études.
Bien sûr, mais on peut tout à fait comprendre que certaines universités veuillent dispenser des droits différenciés leurs étudiants. Maintenant, il y a contradiction à partir du moment où elles demandent aussi de l'argent à l'État pour équilibrer leurs comptes. Donc, nous avons fait une proposition qui est très simple. Si certaines universités veulent dispenser idéologiquement ou parce qu'elles les pensent trop pauvres, leurs étudiants, de payer des droits différenciés, qu'elles fassent leur compte et qu'elles ne demandent pas à l'État des rallonges, parce que l'État serait amené à payer deux fois. Et puis la troisième chose, c'est que l'étude de campus, elle est totalement déclarative. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle sur ce que disent les personnes qui sont interrogées. C'est pour ça que nous avons décidé de faire un travail scientifique, documenté, sourcé, sur ce que nous coûte et ce que nous rapportent les étudiants étrangers en France. Alors, je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que, effectivement, si certains étudiants restaient en France pour travailler et pour contribuer au PIB de la nation, si par exemple 100 000 de ces 450 000 étudiants restaient en France travailler, le déficit serait beaucoup moins grand parce que ces étudiants rapporteraient en gros 1,7 milliard à l'État. Oui, seulement, nous ne savons rien de cela. Et ça fait des années et des années que nous demandons, et que personnellement je demande, qu'il y ait un travail qui soit fait sur qu'est-ce que deviennent les étudiants étrangers en France après leurs études.
Alors, vous y répondez un petit peu dans l'étude, Jean-Paul Gourevitch. Je vais juste expliquer à nos auditeurs. Je vais rappeler quand même les chiffres à nos auditeurs. 3,415 milliards de dépenses contre 1,237 milliards de recettes, soit un déficit net de 2,18 milliards d'euros par an, ce qui revient à 4 839 euros par an par étudiant, ce qui est quand même colossal. Et surtout, il y a un indice quand même pour apporter un peu de réponse, c'est 66,2% des étudiants étrangers n'obtiennent pas leur licence en 3 ans, et selon la Cour des comptes, l'opération Bienvenue en France n'a atteint que 4 de ses 28 objectifs. En fait, quand bien même ces étudiants viendraient faire leurs études un petit peu tout frais payés en France, on s'aperçoit que bien plus de la moitié d'entre eux ne parvient pas à aller jusqu'à la licence en 3 ans, ce qui entraîne en plus des coûts supplémentaires et ce qui rend un petit peu relatif le succès de l'opération, quoi.
Alors, c'est un succès quantitatif, parce qu'effectivement, le nombre d'étudiants en France et d'étrangers qui viennent en France a augmenté. C'est un échec qualitatif, parce que nous n'avons pas du tout joué sur l'excellence. Nous avons accueilli les étudiants qui voulaient poursuivre leurs études, et non pas les étudiants dont la France avait besoin pour augmenter son produit intérieur brut et pour trouver des étudiants et des professionnels dans les domaines où justement il y a un manque. Et là, c'est tout un renversement de perspective qu'il faut envisager, c'est-à-dire choisir l'excellence, choisir d'accueillir les meilleurs, parce qu'on sait que ce sont ces meilleurs-là qui contribueront à la fois à l'augmentation du PIB, mais aussi au prestige de la France. Et ce que nous disent certains étudiants étrangers, c'est que, on ne vient pas en France parce que, vous comprenez, tout le monde vient en France et nous, on voudrait des formations qui nous soient utiles. Or, justement, ça n'est pas pour l'instant véritablement le cas. Et ça, il fallait pouvoir rentrer dans les chiffres et dans les statistiques pour le démontrer.
Bah, il est vrai, sans caricaturer Jean-Paul Gourevitch, il est vrai que si on fait venir, par exemple, mettons, un étudiant du Burkina Faso pour qu'il vienne passer une licence de sociologie du genre à la Sorbonne, c'est vrai qu'on voit difficilement le bénéfice et pour la France, et pour le pays, et pour le Burkina Faso. Ceci dit, dans cette étude, vous ne faites pas que démonter un bilan, vous proposez aussi des pistes d'amélioration, vous en proposez 8. Je vous laisser les décliner, vous en proposez notamment une, vérifier la demande de l'étudiant et ses preuves de ressources, sa connaissance minimale du français et la validité de sa demande d'admission préalable. Ce qui est terrible dans cette piste que vous évoquez, c'est que ça veut dire que ce n'est pas fait, alors qu'en fait c'est le béaba et c'est la base à la limite.
Bah, il faut, quand on a travaillé comme moi en Afrique pendant 26 ans, on sait un peu comment se font les attestations de ressources. Mmh. Ce sont des attestations de complaisance dans lesquelles, parfois qui sont réelles aussi, hein, il faut le dire, dans lesquelles quelqu'un dit, mais Monsieur X, si il ne peut pas subvenir à ses besoins, nous, nous allons subvenir à ses besoins. Mais nous n'avons pas de contrôle de cette... Et pour le reste, nous avons fait effectivement un certain nombre de propositions. La première proposition, c'est de travailler à la mise en place des droits différenciés dans les différentes universités. Mmh. Nous sommes un des seuls pays où on peut s'inscrire pour 178 euros dans une université, alors que dans la plupart des autres pays, ça se situe entre 3 000 et 10 000 euros. Mmh. Bon. On a aussi demandé de ne pas renouveler le visa à des étudiants qui n'ont pas fait la preuve qu'en 5 ans, ils ont obtenu un diplôme, sauf cas particuliers qui peuvent toujours exister. Mmh. Et puis, des choses qui n'ont jamais été envisagées, responsabiliser les établissements d'enseignement sur la façon dont ils vont aider les étudiants qu'ils accueillent, ils s'en occupent pas en général, ils s'occupent pas de leur logement ni rien, mettre en place un système de défiscalisation analogue qui existe pour, par exemple, les associations, pour que un certain nombre de gens puissent aider justement les étudiants étrangers et excusez-moi, et puissent défiscaliser une partie de leurs frais. Et puis surtout, lancer une véritable recherche sur que deviennent nos étudiants étrangers en France. Et je me répète, mais ça fait 20 ans qu'on le demande et ça fait 20 ans que rien n'est fait dans ce sens. Comment est-ce qu'on peut mener une politique sans savoir ce que deviennent les gens au bénéfice desquels est menée cette politique.
Il y a la réponse à votre question. Dans une de vos réponses précédentes, le problème se situe dans la responsabilisation et des institutions et des individus. Merci beaucoup Jean-Paul Gourevitch d'avoir été avec nous pour évoquer votre étude sur le coût des étudiants étrangers. Vous l'avez entendu, chers auditeurs, c'est une véritable mine d'or en réalité pour les étudiants étrangers. Ça l'est évidemment beaucoup moins pour les Français, puisqu'on rappelle le chiffre clé de cette étude, 450 000 étudiants étrangers en 2025-2026 pour un coût de environ 4 839 euros par étudiant et par an et un déficit net de 2,18 milliards d'euros par an. Ces chiffres, on les doit à Jean-Paul Gourevitch et à Contribuable Associé. Merci à eux. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous allons revenir, mais d'abord un tout petit message de votre radio.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées, vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, l'ADMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'Ogym, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne.
Restons courtois. Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore et Étienne Darjac. Nous vous avions reçu Jean-Paul Gourevitch avec l'essayiste, auteur d'une étude très intéressante sur le coût des étudiants étrangers. Nous sommes justement revenus sur un énième désastre financier français et le coût délirant que provoquent ces 450 000 étudiants étrangers qui sont venus étudier lors de l'année 2025-2026, dont on rappelle que cela coûte, c'est un déficit net pour la France de 2,18 milliards d'euros par an et surtout un échec qualitatif puisque 66,2% de ces étudiants étrangers n'obtiennent pas leur licence en 3 ans. Et selon la Cour des comptes, l'opération Bienvenue en France, qui était justement une opération censée promouvoir les études des étudiants étrangers en France, n'a atteint que 4 de ses 28 objectifs. Ce qui est un aveu incroyable. En parlant d'échec, nous accueillons Nicolas Boutin. Et Nicolas Boutin n'a aucun rapport avec l'échec. En revanche, c'est le dossier qu'il vient nous présenter qui en a un. Bonsoir Nicolas, comment allez-vous ?
Bonsoir Marc, quel accueil, merci beaucoup.
Alors on parle d'échec, Nicolas Boutin, parce que le narcotrafic s'attaque désormais aux mairies. C'est le thème du dossier de une de Valeurs Actuelles, qui apparaît sur la une du journal, un dossier extrêmement fourni dont vous avez été un des principaux artisans avec notre enquêteur Jean-Michel Verne. Les narcotrafiquants s'attaquent aux mairies, c'est-à-dire ils affrontent les maires ou ils essayent au contraire d'infiltrer ces institutions pour prendre le pouvoir et dévier l'action publique, Nicolas Boutin.
Bah écoutez, c'est quelque chose qui évidemment se retrouve au moment des élections municipales. On en a beaucoup parlé, notamment après le meurtre du frère d'Amine Kessassi à Marseille, de cette menace qui planait autour de cette campagne, de ces élections. Je voudrais quand même qu'on rappelle l'essentiel, c'est-à-dire que dans le bureau de maire, il y a des dossiers qui concernent des subventions, des permis de construire, des attributions de logements sociaux, de la vidéoprotection, de la police municipale. Donc tout un tas de leviers qui peut aiguiser les appétits des voyous et, vous le savez aujourd'hui, en particulier des narcotrafiquants, qui se retrouvent avec un pouvoir, j'ai envie de dire, presque illimité en France. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le narcotrafic, c'est entre 5 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année, parce qu'il y a autour de 300 000 personnes qui vivent directement ou indirectement de ces revenus. Et il y a donc une puissance, une capacité à la fois à terroriser, hein. On le voit lorsqu'il y a des règlements de compte, lorsqu'il y a des tirs parfois contre des bâtiments publics par exemple, mais également à influencer en faisant, et ça on le sait un petit peu moins, en faisant ce que l'on appelle, et pardon pour les auditeurs de Radio Courtoisie, mais du soft power, c'est-à-dire
du
pouvoir doux, le fait d'influencer. Par exemple, avec des actions de philanthropie, lorsqu'on va installer des piscines illégalement en bas des tours, des quartiers, lorsqu'on va offrir des grands banquets pour célébrer, entre guillemets, les voisins, mais avec l'argent qui est payé, avec de la viande, par exemple, qui est payé avec l'argent de la drogue, lorsque l'on va payer des fournitures scolaires. Et donc, ce qui va contribuer à une sorte d'influence, notamment dans certains quartiers et dans certains territoires, que malheureusement aujourd'hui, même le gouvernement vient avouer que le narcotrafic a pris le pouvoir sur ces zones.
Alors pourtant, on a eu énormément de déclarations ministérielles, je pense à Laurent Nunez, Bruno Retailleau, nous allons entrer en guerre contre le narcotrafic, nous serons sans pitié, etc. Et on s'aperçoit qu'en réalité, oui, la poutre travaille en quelque sorte et que les narcotrafiquants ne font que progresser en réalité.
Oui, et puis en fait, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas nouveau. Enfin, on a été tous particulièrement surpris lorsque le soir du 15 mars dernier, le soir du premier tour de l'élection municipale, on s'est retrouvé avec, à Saint-Denis par exemple, des trafiquants notoires, connus par la police, des services de police, dans les locaux, dans l'enceinte de l'hôtel de ville, en train de célébrer l'élection d'un maire et les filles. Ça a été le cas par exemple donc à Saint-Denis, à Roubaix aussi, on a eu ces retours. Mais en fait, c'est finalement quelque chose qui vient illustrer quelque part des rapports un peu sulfurés et interdits, des liaisons dangereuse qui existe malheureusement depuis de nombreuses années, et particulièrement à Marseille, vous le savez, on en a beaucoup parlé, lorsque même au XXe siècle, quand on peut vous parler par exemple des bandits Carbone et Spirito, qui avaient... qui était proche de Gaston Defferre, et puis après il y a eu ceux qui l'entourage de Jean-Claude Godin, qui pour certains était soupçonné d'appartenir à la Pègre. Et puis on voit parfois arriver une sorte de comment dire, mélange des genres un petit peu douteux, ou lorsque on a par exemple à Marseille et bien des élus politiques qui sont issus de grandes familles connues pour chapeauter le trafic de drogue.
Ouais.
Alors
d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, Nicolas Boutin, mais il suffit de voir aussi le score impressionnant que fait Benoît Payan dans les quartiers où sont installés les principaux points de deal de la ville phocéenne, quoi.
Eh bien, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des élections municipales qui se jouent beaucoup dans les quartiers. On a analysé dans ce numéro de Valeurs Actuelles les résultats quartier par quartier des quartiers sous la coupe des narcotrafiquants on a analysé donc ces résultats, et on voit qu'en fait ils sont totalement clivants par rapport au reste sur l'ensemble de la commune.
Oui.
Je vous donne un exemple. À Marseille, on a une triangulaire au second tour avec 5% pour la candidate Les Républicains, 54% pour le PS et 40% pour Franck Alizio pour le Rassemblement National. Eh bien, lorsque l'on va à la Castellane, par exemple, Benoît Payan réalise un score de 95,30% et le RN, sur 2000 voix possibles, n'en engrange que 13.
Ouais. 13 voix sur 2000, c'est incroyable.
Et lorsque l'on va parfois, par exemple, à Nîmes, je vous prends l'exemple de Nîmes qui a basculé en faveur des communistes.
Absolument.
Alors, pourquoi est-ce que le Parti communiste a gagné Nîmes ? Parce qu'il y a, bien sûr, le candidat LR qui a refusé de se retirer au profit du candidat RN, mais surtout parce que dans les quartiers Pisevin, Chemin Bas d'Avignon, pour ne citer qu'eux, ils réalisent un score très important, 83%, 79%, alors qu'il y a trois candidats. Et grâce à ces quelques quartiers-là, ils prennent 1160 voix d'avance sur ces deux seuls bureaux. Et je vous rappelle qu'à Nîmes, la victoire se joue qu'à 1900 voix. Et par exemple, à La Courneuve, ils prennent 400 voix d'avance sur un bureau, là où le maire est élu sur l'ensemble de la ville qu'avec 240 voix d'avance. Ouais. Donc vous voyez tout l'enjeu qui se trouve là, et on se retrouve avec des scores qui sont parfois même qui n'ont rien à voir.
Mais c'est ce qu'on a vu, parce que c'est ce qu'on a vu dans l'élection municipale partielle de Villeneuve-Saint-Georges, où on a vu effectivement les voix que faisait Louis Boyard dans certains bureaux de vote et ce que faisait la maire sortante par exemple dans des quartiers de centre-ville un petit peu plus calmes. Il y a aussi le cas de Carpentras, conquise par le RN, mais on a vu le score que faisait l'ancien maire dans certains quartiers où là pareil, c'était un score de dictateur, quoi, en quelque sorte.
Ben en fait, pour tout vous dire, Carpentras, on se trouve dans le quartier du Pou du Plan. C'est un quartier qui est connu notamment donc, pour abriter évidemment le trafic de drogue, pour avoir des artisans, par exemple, qui, dès qu'ils entrent dans ce quartier-là, sont fouillés, leur camionnette est fouillée, et qui a une vie sous la coupe de ces personnes cagoulées, qui cachent les stupéfiants dans les parties communes, et qui, on est allé sur place, font régner la terreur auprès des habitants. Au second tour, le candidat de gauche, ancien PS, réalise 244 voix dans ce quartier. Son concurrent, lui aussi de gauche, en réalise que 12. Et le maire RN, qui est élu sur l'ensemble de la ville, n'en réalise que 4 voix. Et ce qui montre bien ce différentiel. Finalement, ce qui peut parfois aussi être considéré comme une armée de réserve électorale. Par certains candidats. On le voit d'ailleurs par exemple à Nice, pardon, je termine avec cet exemple parce que ça ne touche pas toujours que la gauche. À Nice, on voit que Christian Estrosi fait entre 56 et 60% des suffrages dans ces quartiers-là, alors reléguant parfois Éric Ciotti derrière la gauche à seulement 17%,
ouais.
Notamment dans le quartier Ariane. Eh bien, pourtant, ça n'empêche pas dans la ville. Et dès qu'on s'écarte de ces quartiers, Éric Ciotti doit reprendre la tête et de s'imposer sur l'ensemble de la ville.
Mais alors, en fait, y a, de ce que vous racontez, Nicolas, il n'y a pas vraiment de solution. En fait, c'est on doit maintenant composer avec cette réalité. Alors, on a parlé des conséquences politiques, électorales. Il y a aussi évidemment les conséquences sécuritaires. Paradoxalement, cela fait des réserves de voix pour la gauche dans certains quartiers, mais cela dope un petit peu aussi les voix du coup pour la droite avec les programmes plus sécuritaires et les programmes plus portés justement vers cette donnée qu'on tendance à mépriser la gauche.
Bah, il est aussi là intéressant lorsqu'on étudie cette carte, c'est qu'on voit que les candidats, notamment de droite, qui ont fait campagne contre le narcotrafic en demandant davantage de moyens, d'efforts, en déclarant parfois la guerre au narcotrafic, en demandant l'état d'urgence, se retrouvent finalement à être totalement perdant dans ces quartiers-là, et donc que la réponse politique attendue dans ces quartiers se tourne davantage vers ceux qui voudraient légaliser la drogue, qui voudraient pas forcément développer la vidéoprotection, la police municipale. Et l'on voit finalement les intérêts qui peuvent se rencontrer entre certaines politiques qui sont menées et les intérêts de voyous. Lorsque l'on voit que, par exemple, à Saint-Denis, on consacre 4 pages à la gestion de la ville de Mali Bagayoko et donc à faire un premier bilan. Lorsque l'on voit que les points de deal qui hier avaient été fermés par l'ancienne municipalité les autorités de l'État ont rouvert aujourd'hui, que les vendeurs à sauvettes sont de retour et on se retrouve désormais avec une police municipale qui a ordre de ne plus bouger, de rester chez eux.
Et qui démissionne massivement, surtout, Nicolas Boutin.
Exactement, qui démissionne. Une cinquantaine devrait partir, une vingtaine ont été actées, mais une trentaine devrait également quitter Saint-Denis. Et puis, on voit que le soutien de la mairie envers les agents de la police municipale est de moins en moins, franc, en tout cas, voilà, Les policiers nous disent qu'ils ont peur maintenant de sortir et d'intervenir, notamment dans certains quartiers qui sont encore une fois gangrénés par le narcotrafic notamment. Mmh. Et donc on se retrouve avec des maires qui parfois légitimement veulent céder en fait la lutte contre le narcotrafic à l'État, puisque c'est d'ailleurs
c'est les compétences de police nationale plutôt,
oui. Exactement, mais qui du coup favorise le déploiement de ces forces illégales. On voit aussi des commerces qui s'installent. Et là encore, avec une inaction parfois des équipes municipales, notamment de commerces qui servent à blanchir l'argent de la drogue.
Alors, pour finir, Nicolas Boutin, il y a une autre donnée, donc on a compris que les narcotrafiquants partaient à l'assaut des mairies, mais il y a aussi des maires qui résistent. On se rappelle du maire de La Île-et-Rose,
Vincent
Jeanbrun, dont j'ai oublié le nom, merci beaucoup Valentin Gore. Vincent Jeanbrun qui a vu son domicile être attaqué, sa femme et ses enfants contraints à la fuite. Il y a des maires qui résistent, mais justement la question c'est, est-ce que ces maires ont les moyens de résister? Est-ce qu'ils sont soutenus, ces maires, justement, qui veulent finalement faire régner l'ordre républicain, en fait, tout simplement?
C'est toute la question. Notamment, nous, on est allé dans l'agglomération lyonnaise, on est allé voir ces maires de plusieurs étiquettes. Hein. On a Alexandre Vincendet qui est chez Horizon, on a la maire de Décines, de Laurence Fautra, qui est au Républicain. Vous voyez, c'est un petit peu transpartisan. Et on se retrouve avec des maires qui se retrouvent dépassés. On a eu à Décines récemment un incendie criminel qui a coûté la vie à 3 personnes, dont l'enquête se dirige vers un règlement de compte lié encore une fois au narcotrafic. Eh bien, lorsque la maire de Décines Charpieu est appuyée des élus de la métropole, ont demandé au ministre de l'Intérieur davantage de moyens, de l'aide, une visite notamment sur place, eh bien, pour l'instant, le ministre a simplement répondu qu'il allait regarder les chiffres. Pour la petite anecdote, le ministre est à côté de Lyon demain, devait se rendre à Décines et a finalement annulé ce rendez-vous avec les maires hier en fin d'après-midi. Certaines sources nous indiquent que ça pourrait être lié avec ce coup de colère que les maires ont témoigné dans Valeurs Actuelles. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on se retrouve avec des policiers nationaux de moins en moins nombreux. Et encore une fois, à Lyon, malgré certaines promesses, eh bien, il y a encore 48 effectifs en moins prévus en septembre prochain sur l'agglomération lyonnaise. Et on se retrouve encore aujourd'hui avec des maires qui sont obligés de pallier avec leurs propres moyens. Et donc, quand on est dans une commune riche, si on est à Cannes, à Neuilly, eh bien, effectivement, on peut plus facilement se doter de moyens. Mais lorsque l'on est dans des collectivités qui déjà ont dû subir des baisses de dotation, eh bien, c'est aujourd'hui, on mise bout à bout, on fait un petit peu ce que l'on peut du bricolage avec les outils qui sont les leurs, mais qui malheureusement ne suffisent pas à endiguer la progression du narcotrafic.
Merci beaucoup Nicolas Boutin, chef du service VA Région et co-auteur de ce dossier très intéressant sur la façon dont les narcotrafiquants montent à l'assaut des mairies. C'est évidemment retrouvé en exclusivité sur Valeurs Actuelles, donc n'hésitez pas à l'acheter en kiosque, à vous abonner ou à payer un abonnement numérique pour avoir ces articles disponibles sur le web. À très bientôt Nicolas et merci à vous. Restez avec nous chers auditeurs puisque dans quelques instants nous recevons Tuguel Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et auteur de La Cendre et le Feu, un récit intime de la droite aux éditions Robert Laffont, et on revient vers vous dans quelques instants.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore et Étienne Darjac, que je ne présente plus. Et nous avons le plaisir d'accueillir Tuguel Denis. Tuguel Denis, bonsoir.
Bonsoir Marc.
Vous êtes le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et vous publiez La Cendre et le Feu aux éditions Robert Laffont, un ouvrage, un récit intime sur la droite telle que vous la connaissez et telle qu'on la connaît un petit peu tous. Et pour parler de tout ça, j'ai aussi proposé à Stanislas Rigaud d'être avec nous ce soir. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Marc, bonsoir Tuguel, bonsoir à tous, bonsoir Étienne Darjac, bonsoir Valentin.
Bravo, vous êtes tout ça en une phrase sans reprendre sa respiration. C'est un homme de radio. Co-fondateur de Génération Z, donc ancien président des jeunes avec Zemmour, et actuel co-fondateur de Nexus, une agence d'influence, de relations publiques et de communication. Ça va, c'est bon ?
C'est parfait.
Nickel.
Merci beaucoup.
Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, plusieurs générations de droite rassemblées sur le même plateau. Nous attendons aussi François de Voyer qui ne devrait pas tarder. Tuguel Denis, j'ai parlé de récits intimes et c'est vrai, tant vous avez pris le pari de vous livrer avec une grande sincérité dans ce livre. Alors intime, oui, en même temps, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on retrouve tous un petit peu des références communes. On peut parler de Jean-Pax Meffray, on peut parler de même des lieux de résidence, d'une ambiance, d'une époque. C'est un petit peu ça que vous avez voulu décrire.
C'est tout le paradoxe des témoignages, c'est qu'ils sont parfois plus universels que des récits plus collectifs. Bon, je considérais que venant d'une famille assez archétypale, ça pouvait effectivement éclairer sur le milieu dans lequel j'ai grandi. Famille de 6 enfants, banlieue ouest, messe en latin, vouvoiement des parents, scoutisme, école privée. Donc il y avait là de quoi effectivement dessiner quelque chose d'assez cadré. Et après, effectivement, j'ai voulu faire quand même comme une forme de recensement du milieu dont je viens, du milieu dont vous venez un peu tous, ou en tout cas qu'on a pu côtoyer de près ou de loin. Recensement à la fois un peu avant disparition, parce qu'il y a cette idée que un peu évidente que aujourd'hui on appartient à une espèce en voie de disparition, que nous sommes entre guillemets des anomalies. Ça veut pas dire que on n'a pas d'influence, ça veut pas dire qu'on va totalement disparaître, ça veut pas dire que les gens comme nous ont vocation à être de moins en moins nombreux, mais quand même il y a un air du temps qui nous impose de marcher face à lui à contre-courant. Et donc c'est pour ça que je me suis dit faut camper ce milieu pour qu'à la fois nos adversaires nous connaissent mieux, parce que ce qu'on vit n'est pas ce qu'on dit. Moi je lis partout dans la presse, mais depuis que je suis enfant, hein, des portraits de la droite catholique versaillaise intégrale, ou pas versaillaise d'ailleurs, qui sont très loin de la réalité. Et mais j'avais aussi envie d'écrire pour nos amis qui n'ont jamais le droit à leur propre récit. La gauche ne cesse de servir sa propre narration en permanence. Elle est très douée pour se mettre en scène, voire pour se mettre en valeur, quand la droite s'excuse en général politiquement d'être de droite, mais oublie aussi de retranscrire ses élans, ses grandeurs, son panache, ses paysages, ses personnages. Vous avez évoqué effectivement quelques points d'accroche que nous pouvons partager. Il y a la lecture des livres de Serge Dalens, il y a les paroisses dans lesquelles nous nous sommes agenouillés le dimanche, les écoles que nous avons fréquentées, l'éducation assez spécifique que nous a donné nos parents, la musique qu'on écoutait, les tenues qu'on portait, et tout ça, je pense, méritait effectivement une espèce de radiographie pour qu'une bonne fois pour toutes, on puisse expliquer dans ce pays comment les gens de droite vivent réellement.
Vous le racontez d'ailleurs, le fait d'être en Bermuda tout le temps et par tous les temps, le fait d'être un petit peu comme déguisé.
Alors là, si j'étais en Bermuda maintenant, oui, ça ne me dérangerait pas.
Ouais, mais la métaphore, c'est vrai.
Mais l'hiver dans les années 80 et les hivers dans les années 80 étaient rudes.
Oui, mais le velours, ça réchauffe quand même. Et il paraît qu'on n'attrape jamais froid par les mollets. On a dû vous le dire plusieurs fois.
Bah, c'est vrai qu'on tombait pas si malade que ça. Mais une fois de plus, il y a un côté archétypal. Effectivement, dans cette famille de 6 enfants habillés en Cyrillus avec les Bermudas. Et des gens qui le regardaient un peu d'un air bizarre. Et en même temps, c'est ça qui rend je pense, une certaine droite un peu romanesque, hein, c'est qu'effectivement, elle détonne, et effectivement aussi, elle a ses codes, ses mythologies. Moi, j'ai toujours été frappé. On parle de milieu dans lequel on a grandi, on peut aussi évoquer le mot microcosme. Mais c'est ça qui est génial avec les microcosmes, c'est des mini-sociétés où on partage des codes sociaux, des représentations du monde. Et qui donne à la fin quelque chose de très lisible. Et effectivement, on était prévisible, on était souvent, comment dire, voilà.
Cliché, quoi, en fait.
Ouais, un peu cliché. Et en même temps, justement, on partageait énormément de codes en commun. Et c'est aussi ce qui faisait la cohésion de mon milieu, sa solidarité, son homogénéité, et je pense une forme de fidélité et de solidité.
Stanislas Rigaud, sur la cendre et le feu.
Bah, écoutez, félicitations parce que j'ai lu le livre de Tuduel Denis avec grand intérêt. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en effet, même si nous ne sommes pas de la même génération, certains phénomènes sont communs entre nos deux générations. Et après, il y a plusieurs éléments qui sont assez géniaux. Le premier, qu'il a un peu moins, à titre très personnel, et je l'ai écrit à Tuduel, c'est qu'il m'a rendu Édouard Philippe sympathique dans les premières pages du livre. Ce qui m'a déplu, mais bon, c'est tout le talent de Tuduel. La deuxième chose, et ça je crois que c'est quand même un phénomène assez générationnel, c'est-à-dire que les descriptions qui sont faites dans le livre et l'objectif du livre, à savoir qui est de nuancer ce que votre génération a été, ne se retrouvent plus nécessairement dans la nôtre. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'une grande partie de la génération aujourd'hui, issue de familles de 5, 6 enfants, scouts, cathos, tradis, etc., a plutôt tendance à être extrêmement revendicative, même plus
décomplexé,
âgé,
en fait, un
plus
peu.
Décomplexé. Et moi, je crois qu'il y a justement un changement hyper intéressant. On le voit par des grands phénomènes, que ce soit par les JMJ, qui sont des succès énormes, que ce soit par le palinage de Chartres, que ce soit par des mouvements politiques où des leaders jeunes sont en train de s'affirmer un peu partout. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi le grand mérite du livre, c'est que vous nuancez évidemment ce qui est la droite et les clichés. Et qu'à l'inverse, il y a aussi une vraie opposition entre nos deux générations, où nous, nous allons justement chercher à affirmer ce que nous sommes en permanence, quand on a l'impression, quand on lit votre livre, que vous, justement, vous avez voulu tout au long de votre vie, et de journaliste et d'homme, nuancer ce que vous étiez, quand nous, peut-être de façon caricaturale d'ailleurs, on en fait des caisses sur le côté barbour, sur le côté on est catho, on est extrêmement revendicatif. Et je sais, pour vous connaître un petit peu, pour avoir eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois, vous êtes évidemment très loin de la caricature qui est faite de vous dans les médias, et qu'en fait le livre reflète, je trouve, très très bien cette nuance et cette recherche de vérité aussi, de dialogue avec tous. Mais voilà, je trouve que le vrai duel, il est aussi générationnel, ou peut-être que nous sommes caricaturaux quand votre génération essaie justement de nuancer ce que vous a apporté votre écosystème familial, personnel, etc.
Je pense qu'on est tous les enfants des générations qui nous ont précédés. Déjà, en tout cas, je vous remercie Stanislas pour cette analyse une fois de plus fine, comme toujours. Comme toujours avec vous. Et je commencerai quand même par justement un élément personnel vous concernant. J'étais positivement ébahi de voir qu'un garçon comme vous ait pris autant de place pendant la campagne présidentielle de 2022, car effectivement je ne suis jamais blasé de voir une certaine droite avoir le droit à la parole dans des médias qu'on estimait inaccessibles pour nous. Et effectivement la manière dont vous avez été extrêmement souvent invité sur BFM, sur des grandes antennes nationales pendant la campagne de 2022, et sans jamais avoir à renier ni ce que vous étiez, ni la coupe de cheveux que vous aviez, ni la typologie que vous représentiez, ni les convictions évidemment que vous défendiez, que vous portiez pas du tout en bandoulière, était un signe effectivement de cette fameuse bataille culturelle qui avançait. Pour autant, si vous voulez, je parle beaucoup par exemple de Jean Sevilla dans le livre. Faut regarder les choses avec un peu évidemment de profondeur historique, l'histoire fut-elle contemporaine. Quand Jean Sevilla passe à la télévision dans les années 90, Jean Sevilla, historien, journaliste au Figaro, et par ailleurs mon voisin de Loucienne, là où j'ai grandi, et j'étais très ami avec... avec ses enfants, Nicolas et Benoît Sevilla, dont nous fréquentions les mêmes écoles. Bah, si vous voulez, voilà, il était tout seul sur le plateau d'Ardisson, c'était une fois par an. Le Pen passait à la télé trois fois par an. Évidemment, il n'y avait pas Jenny Bastier, Charles Dornena, Geoffroy Lejeune, tous les jours à la télévision. Et puis, les choses ont commencé à se débloquer.
Vous le racontez justement avec son allure un peu compassée, sa cravate à fleur de lys qui détonne complètement entre deux humoristes,
Thierry
Ardisson, il y a un décor un peu clinquant, quoi.
Enfin, oui, il se retrouve sur le plateau de Thierry Ardisson entre Gérard Darmon, l'acteur, et je ne sais quel chanteur. Mais bon, il ne se démonte pas et il explique qu'effectivement, il y a tout un débat sur la repentance historique sur le plateau qui s'installe, et il ne se démonte pas en expliquant qu'il ne faut pas avoir une lecture caricaturale, par exemple, de la colonisation. Donc les choses ont évidemment bougé sous les coups de boutoir des uns et des autres, jusqu'à votre présence assez massive en 2022 dans les médias, Stanislas Rigaud. Mais pour autant, je me méfie, si vous voulez, quand la droite triomphe trop tôt, parce que justement, la droite est tellement complexée que dès qu'elle a 3 minutes d'émission à la télé, elle a l'impression que ça y est, que les choses sont acquises et que la bataille culturelle est gagnée. Et en fait, il y a deux adversaires qui nous tendent des pièges. Il y a nos amis qui, par imprudence, crient victoire trop tôt, et nos adversaires qui, eux, par hostilité, annoncent notre victoire, alors qu'en fait, on n'a encore que des miettes du débat public, de l'espace culturel disponible, et je vous parle même pas des politiques publiques concrètes, c'est-à-dire qu'il ne se passe absolument rien de droite dans ce pays, en réalité.
Après, sérieux, justement, tu lui as donné, peut-être que les auditeurs s'interrogent, c'est, vous parlez un petit, en parlant de la droite, de vos origines familiales, etc., vous parlez un petit peu presque d'un pays qui n'existe plus, et en même temps, on a l'impression que la droite n'a jamais été autant de retour. Il y a un côté un petit peu paradoxal d'une droite qui revient en force médiatiquement, politiquement, etc. Enfin, on a quand même, Marine Le Pen détesterait qu'on dise qu'elle est de droite, mais il y a quand même Jordan Bardella qui est en tête à 36% dans les sondages pour l'élection présidentielle 2027. Et en même temps, on a l'impression justement que cette droite, elle est ultra minoritaire, elle est réduite à sa portion congrue et qu'elle est à deux doigts de la disparition.
Je pense que la gueule de bois en 2027 peut être d'autant plus sévère parce que justement, on a l'impression que comme Philippe de Villiers vend beaucoup de livres et que Jordan Bardella est à 36% dans les sondages et que Pascal Praud réalise des bonnes audiences, etc., etc., et que Stanislas Rigaud pouvait passé des heures et des heures d'antenne en 2022 que le mouvement est en marche. Mais attention, hein, de ne pas se réveiller avec François Hollande, président de la République, en 2027, mmh. C'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Et voilà, moi je prends juste l'image et la métaphore dans le livre des Fata Morgana, c'est des mirages complexes dits supérieurs, et en fait qui résultent de la superposition d'une couche d'air chaud sur une couche d'air froide. Et la couche d'air chaud, c'est ce que je viens de décrire, l'allant général de la droite, mais la couche d'air froid, c'est la réalité, c'est-à-dire les politiques publiques. Il ne se passe rien de droite sur la fiscalité des entreprises dans ce pays, il ne se passe rien de droite sur la gestion des flux migratoires, il ne se passe rien de droite dans l'organisation de la justice, il ne se passe rien de droite sur la fiscalité des particuliers. Et donc, tout cela, pour le moment, n'est que du bruit que nous faisons avec nos bouches et qui n'est pas vraiment concret dans le pays.
Mais non, mais c'est avant de laisser la parole, évidemment, j'imagine aux autres, mais...
Moi, je laisse réagir, quand même.
Comment ?
Je vous laisse réagir, quand même, allez-y.
C'est gentil. Mais non, justement, mais c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il y a une partie, notamment de la jeunesse de droite, qui est, si je suis très caricatural, fleur de lys, drapeau bleu, blanc, rouge, barbour et de retour à fond, et qui, justement, crie victoire et se croit de retour, ou en tout cas, arrivant au pouvoir. Mais c'est parce qu'il y a deux modes opératoires. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre génération a justement fait tout ce travail de sape, d'explication, d'infiltration, si je puis dire, de certains milieux, en expliquant de façon quasi pédagogique qu'en réalité, l'image qu'ils s'en faisaient n'était pas la bonne.
Que nous n'étions pas des monstres.
Exactement, et il y a eu tout ce travail-là. Et en fait, si on s'est retrouvé, par exemple, avec des Bastier, enfin toute la clique du Figaro, vous, toute la bande de Valeurs Actuelles à l'époque, sur les différents plateaux, c'est qu'il y a eu un gros travail auprès des individus un à un, pour leur expliquer, vous étiez des gens tout à fait éclairés. Alors que nous bénéficions de ce travail, mais par contre, nous avons une autre méthode dans la nouvelle génération qui est d'être beaucoup plus offensive, de ne plus s'excuser. Et là où je trouve ça intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et je le vois à mon échelle, au niveau des jeunes centristes versus les jeunes de droite, ce sont quand même les jeunes de droite qui ont l'ascendant psychologique et qui sont offensifs à leur endroit, et eux doivent se justifier d'un bilan, d'une attitude, d'une logique politique, d'une idéologie. Quand aujourd'hui nous sommes très à l'aise pour pouvoir les critiquer facilement, et c'est eux qui aujourd'hui se tournent vers nous et essayent de comprendre comment nous fonctionnons pour comprendre les codes de l'époque, parce qu'ils sentent bien qu'ils sont bloqués dans des espèces de camps avec l'extrême gauche très virulente et une extrême droite, ou un camp national, une droite très forte qui est de retour et qui est très brillante, en tout cas générationnellement parlant.
Tu veux, Denis, si vous voulez répondre à ça.
Non, je ne sais pas si les autres veulent intervenir. elle est très bonne cette analyse de Stanislas, donc je la partage.
Ben moi, je rebondirais sur ce mot de microcosme que vous aimez beaucoup, Tugdual Denis, qui est juste microcosme très marqué, un certain milieu, comme on dit, la fameuse expression, vous êtes l'enfant d'un certain milieu. Et puis ce milieu, vous en êtes séparé à un moment. Ça, c'est très intéressant dans ce livre. Et ce qui est différent chez vous par rapport à ce qu'on peut lire beaucoup dans l'époque, c'est qu'il y a un retour. Vous bouclez la boucle, vous revenez en arrière et vous revenez vers ce milieu qui est celui de votre naissance, attiré peut-être d'abord par une esthétique. C'est peut-être aussi ça, la droite que vous décrivez. C'est la messe, pas forcément en latin, mais assez traditionnelle. C'est un peu la droite de Thierry Ardisson. C'est celle qui aime bien les belles choses,
la liturgie sulpicienne,
les cimetières bretons. Ça, c'est très fort chez vous, cette dimension esthétique.
Alors, bon, d'abord, il y a effectivement l'émancipation. Je crois vraiment que ce qui rend le retour aux sources plus fort, plus puissant, plus enviable, c'est... l'émancipation, il n'y a pas de retour aux sources sans d'abord un pas de côté. Et bon, moi, j'ai eu besoin de sortir de mon terrier à un moment, effectivement, poussé par des amitiés nouvelles, poussé par l'envie aussi très enfantine, entre guillemets, de vouloir ressembler à tout le monde. Si vous avez des enfants et que vous discutez avec un garçon de 8 ans, il a évidemment envie d'avoir le même marque de sac à dos que tout le monde. Il a évidemment envie d'avoir vu le même film que ses camarades de classe la veille, et en fait de se fondre dans la masse. C'est qu'en devenant adulte qu'on comprend l'intérêt de la distinction et de la singularité. Et puis, de toute façon, j'avais aussi envie de connaître d'autres couleurs, d'autres musiques, d'autres univers. Et je raconte dans le livre, effectivement, des expériences diverses et variées, mais à commencer par un voyage à Cuba que j'avais fait avec une de mes anciennes petites amies. Et nous étions allés 40 jours à La Havane. Elle-même était la petite fille, et on était hébergés par sa grand-mère, d'une ancienne monteuse dans le cinéma, qui avait fait tout le montage des films d'Henri Verneuil notamment, qui était remariée à un acteur cubain, qui participait à des réunions réunion du comité central du Parti communiste cubain. Et un jour où nous étions là dans sa maison du Vedado, qui est un quartier de La Havane, Angela Davis, une grande militante antiraciste américaine, l'équivalent de Malcolm X au féminin, entre guillemets, débarque à la maison. Bon, moi je suis très content d'avoir vécu tout ça, je suis content d'avoir été intermittent du spectacle, d'avoir travaillé sur des concerts de Johnny Hallyday, d'avoir travaillé dans le milieu du cinéma, avec évidemment personne dans ces... comment dire, dans ces entourages-là qui n'avaient vécu la messe en latin ou qui avaient été élevés dans une famille de 6 enfants. Et puis, de manière assez logique, assez classique, il y a le retour aux sources. Et le retour aux sources, il se fait effectivement par à la fois le comment dire, un attrait pour l'esthétique de notre droite, mais aussi une espèce d'affection pour ce camp si maltraité qui a besoin d'être restauré. Moi, j'ai pas voulu faire un livre de combat, mais j'ai voulu faire un livre de réparation, parce que vraiment, une fois de plus, je pense que ce que l'on donne à voir de la droite, ce qu'on condamne la droite à être dans le récit collectif est absolument pas représentatif de ce qu'on est. Il y a tellement de choses splendides à décrire de nos paysages, de la plaine de la Beauce incisée par les pèlerins de Chartres en passant par les marches du Mont-Saint-Michel. Il y a des personnages à la qualité inégalée, cultivés, sensibles, ouverts, parce que ce qui nous distingue de la gauche, c'est quand même aussi notre absence de sectarisme. Et effectivement, notamment en travaillant à Valeurs Actuelles, je suis revenu vers cette droite intégrale et j'ai eu envie de la magnifier, peut-être pour réparer quelques égarements de jeunesse, mais en tout cas c'est venu assez naturellement.
Mais ça, il a fallu vous en éloigner pour la
je pense bah, en fait, c'est toujours, toujours la même chose, on voit mieux de un peu quand on est de côté. C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans le livre il y a des personnages comme François Bayrou ou Édouard Philippe. Je sais bien qu'Édouard Philippe représente pas la droite conservatrice française et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur des choix politiques qui le disqualifieraient entre guillemets de l'électorat de droite. Je sais bien que François Bayrou a jamais rien fait quand il était au pouvoir installe quelque chose de droite dans ce pays, mais en même temps quand vous êtes dans la messe aux Invalides avec Édouard Philippe pour l'enterrement de votre grand-père maternel, héros de Dien Bien Phu et qui chante la prière du para comme tout le monde, bah vous avez envie de dire qu'il fait quand même un peu partie de votre famille au sens large du terme. Quand vous êtes avec François Bayrou à Pau puis à Bordère, son village natal, et que vous parlez de Bernanos et de cette phrase incroyable de Bernanos qui écrivait dès 1947 dans La France contre les robots à propos de notre époque, enfin son époque déjà, mais qui est tellement vrai aujourd'hui, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre la vie intérieure. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de phrase comme phrase plus à droite et plus chimiquement pure de droite dans la littérature française que celle-là. Et il y a plein de gens qui, sans être effectivement dans la petite boîte qu'est la nôtre, comprennent très bien, participent à nos élans. Je vais vous faire une confidence, j'ai vu Édouard Philippe avant-hier et on a débriefé un peu le bouquin et je savais même pas qu'il avait lu Le Prince Eric. Il était là, ah, Serge Dalin, c'est quand même quelque chose, etc. Donc voilà, profitons de ça quand même, profitons de quelques petits éléments.
Un héritage commun, quoi.
Voilà, exactement, il y a un petit héritage commun et quand je vois la rapidité, la facilité avec laquelle la gauche la plus hostile au devenir de la France arrive à s'agglomérer, franchement, parfois, faut arrêter d'avoir des pudeurs de gazelle avec des gens avec qui on partage au moins charnellement quelques éléments.
Étienne Darjac, qu'est-ce que ça vous inspire justement cet itinéraire
sur la dernière partie de ce que vous avez évoqué, Tuduel, je suis peut-être un peu sceptique. Il m'est arrivé aussi au cours de différentes rencontres, de découvrir un peu chez des gens que je pensais assez éloignés de moi politiquement, des références communes, notamment parmi celles que vous citez, d'être un peu étonné. Et j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessité de prendre du recul, de s'éloigner pour mieux revenir. Le problème des gens que vous citez, peut-être, d'Edouard Philippe, de François Bayrou, c'est sans doute qu'à un moment, ils ont senti, eu besoin de s'éloigner de ce milieu pour peut-être leur bien-être, en tout cas leur carrière politique, et qu'ils sont jamais trop revenus. Ils ont gardé sans doute les références, pour que là, j'imagine, ils ont une affection sincère. Mais en tout cas, ce qu'on peut apercevoir de leur œuvre, de ce qu'ils ont fait de leur vie, participe justement à cette conspiration contre la vie intérieure dont vous parlez. Donc, j'entends le charme qu'on peut trouver au maniement des références communes, vraiment. Je sais pas si ça justifie un rapprochement.
Après, moi, vraiment, j'ai pas eu du tout eu l'ambition, et je pense pas en avoir la capacité de faire un livre politologique pour ranger chacun dans la bonne ligne d'eau et à la façon de René Raymond, pouvoir faire un nouvel tableau de classification des droites. En revanche, je pense qu'il manquait quand même un espèce de récit sur voilà, nos représentations communes et dissibles, et parfois ce sont des gens qui, entre guillemets, sont pas de notre camp, qui arrivent à les verbaliser mieux que nous. Mais vous voyez, ce qui est vrai pour dans ce que vous dites sur Édouard Philippe ou François Bayrou, moi je suis désolé, est vrai aussi pour Marine Le Pen, par exemple. Elle se réclame moins souvent de droite que Édouard Philippe. Ça me paraît une aberration. Elle a grandi à Saint-Cloud. Elle a fréquenté les mêmes écoles que moi. En l'occurrence, moi j'étais à 400 mètres au collège de là où elle habitait. Elle était au lycée à 200 mètres de là où j'étais au collège. Elle a eu des cantiques communs avec nous. Elle a eu des chansons communes avec nous. Il y a un rapport à l'histoire de France qui, à la permanence, je pense, qui quand même nous rapproche. Alors, pour des raisons biographiques, j'aime beaucoup cette citation de Bergson, la philosophie d'un homme, c'est d'abord sa biographie, et évidemment, ça vaut pour les femmes. Donc, la biographie de Marine Le Pen, c'est une répudiation de la droite bourgeoise qui avait tellement peur de s'acoquiner avec la famille Le Pen qui était diabolisée et qui préférait s'éloigner à toute force. C'était même vrai pour une partie du clergé. L'évêque du diocèse où Marine Le Pen devait passer sa confirmation lui a demandé de la faire sous un nom d'emprunt. Marion Maréchal, François de Voyer la connaît mieux que moi, le curé de la Trinité-sur-Mer a refusé de lui donner le baptême. C'est quand même des stigmates qui vous marquent profondément et qui vous donnent ensuite envie de pas faire partie de ce camp dans lequel on essaye de vous ramener. Et pour autant, bah, nous qui ne sommes pas Le Pen dans notre chair, ramenons-les à quand même ce camp de la droite. Je veux dire, à la fin, s'il y a un clivage droite-gauche dans ce pays, Marine Le Pen est de droite, elle est pas de gauche. Et moi, je vais pas ergoter sur le fait qu'elle veut même pas se revendiquer de droite ou que sur le plan économique, elle propose la retraite à 52 ans. Je blague. C'est quand même pas assez que ça va pas quand même, ça va pas quand même jusque-là. 47, mais 47. Voilà, ce qui, je pense que des élans plus immatériels sont beaucoup plus importants à mes yeux et en tout cas nécessitent d'être couchés sur le papier une bonne fois pour toutes plutôt que de faire de la politique politicienne. Et ça, il y a toute la littérature disponible tous les jours pour séparer les gens que je viens de citer.
En tout cas, on en est à 48 minutes d'interview, on a réussi à ne pas parler de François Fillon encore, et ça c'est pas mal. Et ça vraiment, ça, je trouve
simplement
que, c'est un bel exploit. Non, il y a trois personnalités, il y a un clan et deux personnalités qui jalonnent votre livre, évidemment le clan Le Pen, et c'est assez amusant de voir que Marine Le Pen, qui ne se revendique absolument pas de droite, et je pense que vous avez raison, qu'elle a très mal vécu le fait d'avoir été ostracisée à un moment donné par ce milieu à cause de son nom. Il y a évidemment Édouard Philippe, on en a parlé, et il y a François Fillon. François Fillon, on a l'impression effectivement en vous lisant que c'est la quintessence de ce que peut être la droite, en quelque sorte.
Bon, je suis désolé.
Et c'est là que vous allez vous faire des copains, tu gueules.
Non, mais c'est surtout, j'ai l'impression effectivement de d'avoir déjà prêché ce sermon, mais c'est pas grave, je vais y retourner.
Alors, on revient dessus quand même.
Non,
je
trouve que François Fillon a incarné en 2016, lors de la primaire de la droite, quelque chose de très abouti à droite. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'expérience d'un homme d'État qui sait piloter des grandes administrations publiques, qui sait rédiger un programme, qui sait rédiger des décrets d'application, qui sait composer un entourage de qualité dont on se dit qu'on soit partisans ou non, mais que ce sont des gens qui sauront faire, quoi. Il y avait quelque chose de très professionnel, évidemment, et de mature dans sa proposition politique. Et puis, il y avait ce moment de sa vie, cette incarnation, cet homme qui avait été ministre des Affaires Sociales, ministre de l'Éducation Nationale, ministre des Télécommunications, Premier ministre pendant 5 ans, évidemment, appartenant à une droite très conventionnelle, à une droite qui avait déçu, il faut le dire aussi, et qui tout d'un coup arrivait à un moment de sa vie d'autonomie intellectuelle et d'autonomie politique qui lui permettait de basculer dans une forme de radicalité, mais une radicalité rationnelle. Rationnelle pour les raisons que j'évoquais avant, et radicalité parce que l'époque l'exige. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui traverse aujourd'hui tous les personnages qui sont présents dans mon livre, et honnêtement, y compris, je suis désolé de les défendre encore une fois, Édouard Philippe ou François Bayrou, tout le monde sent bien que la France nécessite, enfin en tout cas la restauration de la grandeur française nécessite un traitement de cheval et que rien ne se passera sans un immense renversement de table. C'est évidemment ce qui avait aussi porté la campagne de Zemmour en 2022, c'est ce qui porte la proposition politique de Marine Le Pen depuis le début, c'est ce que cherche Bruno Retailleau et c'est ce que cherchouille entre guillemets même Gabriel Attal ou Édouard Philippe, parce qu'il voit bien qu'on est au bout d'un système. Mais donc François Fillon, il arrive avec voilà cette expérience, cette trame, cette aura entre guillemets, plus cette radicalité qui lui est apportée par Bruno Retailleau notamment à l'époque, qui lui est apportée par des compagnonnages un peu plus anticonformistes et un peu moins conventionnels que d'habitude. Et je trouve effectivement qu'il y avait dans le programme de François Fillon et puis la manière dont elle a résisté évidemment à la falsification de sa campagne par à la fois les juges et les médias, quelque chose de très, très chevaleresque. Et j'ai la chance de le côtoyer quasiment quotidiennement, ou en tout cas de manière hebdomadaire depuis 2019. Et voilà, je veux témoigner ici que c'est vraiment quelqu'un avec à qui les discussions sont passionnantes, parce qu'il sait très bien de quoi il parle. Et en même temps, il y a voilà, maintenant cette liberté de ton et cette indépendance d'esprit absolue. Il y a ces bonnes manières, pas au sens bourgeois du terme, mais au sens sophistication. Mmh. Et voilà, je pense que c'est vraiment un grand homme.
C'est un peu un trait d'union entre Bruno Retailleau et Philippe Devilliers. D'ailleurs, dans ce livre, c'est amusant, il est un petit peu à mi-chemin. On sent, c'est peut-être le fait de ne plus être aux affaires qui lui a donné cette liberté. Il est plus à mi-chemin entre les deux, à essayer de chercher une espèce de synthèse improbable.
Alors, je trouve que cette relation, ce triangle des Bermudes, Bruno Retailleau, Philippe Devilliers et François Fillon, est absolument passionnant, parce que sur le plan humain, c'est romanesque à souhait, avec que des personnages à la personnalité intense. Et en même temps, ça dit tellement de la droite, c'est-à-dire la droite est tellement capable de se diviser. J'ai une phrase dans le livre où je dis que sur le palier de nos convictions communes, les voisins qui ne se parlent pas sont vraiment extrêmement nombreux, et ça c'est vraiment la grande tradition de la droite, la division. Et il y a quelque chose de très touchant comme ça, un peu au moment où le soleil commence à se coucher sur leurs existences, dans la volonté de ces gens-là de faire la paix, en tout cas pour ce qui concerne François Fillon et Philippe Devilliers, parce que la proximité de Bruno Retailleau avec François Fillon avait évidemment éloigné Fillon de Philippe Devilliers, puisque Philippe Devilliers en voulait beaucoup à Bruno Retailleau de l'avoir quitté. Et en fait, il y a une scène, je pense, assez émouvante, c'est que le père de François Fillon est mort il y a 2 ans. Et en fait, donc, en ramassant les affaires familiales, François Fillon tombe sur un cliché, une photo de Philippe Devilliers avec son propre père, qui s'appelait Michel Fillon, qui était notaire dans la Sarthe. Parce que, en fait, figurez-vous que les familles de Philippe Devilliers et de François Fillon étaient amis bien avant la génération François et Philippe, exactement. Ouais. Et donc François Fillon envoie la photo de Philippe Devilliers avec son père à Philippe Devilliers, qui sortait d'un plateau de CNews un vendredi soir. Et Philippe Devilliers raconte dans le livre qu'il a eu les larmes aux yeux, et il me dit voilà, je me suis dit qu'en fait il était temps de faire la paix aussi, parce que Philippe Devilliers a participé aux divisions qu'il a pu y avoir entre eux. Ouais. Et je trouve qu'il y a quelque chose de touchant dans la volonté de ces hommes de finalement à un moment se dire qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux qui les dépasse, et qu'il est temps de rassembler leurs forces.
C'est ça la droite, François Le Voyer, c'est plein de petites chapelles isolées les unes des autres qui se parlent trop tard.
Trop tard, ou ne se parlent pas du tout, ou ne se parleront jamais, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi j'ai été très ému par ce que vous avez écrit, parce que vous venez de nous décrire aussi, de nous faire vivre l'incise des pèlerins à travers les plaines de la Beauce, ses souvenirs, ses chants. Mais j'ai ressenti un peu la même émotion qu'en lisant Rêveuse bourgeoisie, vous savez, le très beau roman de Drieux. C'est-à-dire que je me demande parfois si on ne décrit pas là, et encore une fois je m'inclus, parce que ce sont des choses, je pense, que l'on peut avoir en commun pour beaucoup d'entre elles, de passer, c'est-à-dire d'un commun qui n'existe plus que pour une toute petite frange de la population. Et j'ai tout de même, de ce point de vue, un peu peur qu'un Jérôme Sainte-Marie ait peut-être raison sur le côté bloc élitaire, bloc populaire, c'est-à-dire que la droite et la gauche ne parlent plus que dans des milieux très politisés ou traditionnels, d'ailleurs sur la gauche comme sur la droite. Que cette disposition de l'esprit de l'homme de droite à une esthétisation de certaines choses, de certaines valeurs, de certaines traditions, malheureusement ne concerne plus qu'une toute petite minorité. On sait que ce sont les minorités qui font l'histoire, c'est pas perdu pour autant, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de parler un peu dans le vide quand vous traversez la France, malheureusement celle, la France périphérique, on va pour résumer, hein, celle de Fourquet, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces références-là ne lui parlent plus du tout? Et si on a le même sentiment, comment permettre que ces références à nouveau résonnent dans le cœur des Français?
Votre remarque est très bonne, et votre question très légitime. Il y a quelque chose sur lequel je dois plaider coupable, c'est que effectivement, je parle de ce que je connais bien, et j'avais pas la prétention de raconter un milieu que je auquel j'ai pas appartenu, et c'est vrai que j'ai grandi dans la banlieue ouest, dans une maison de 200 mètres carrés, qui était la plus petite de la rue, mais qui était quand même pas si petite que ça.
Je pensais, au-delà, parce que par exemple les paysages ou certaines traditions, elles devraient parler encore à beaucoup de classes populaires.
Oui, mais
je veux dire, c'est que là, on a vraiment l'impression presque d'une région.
Oui, mais c'est vrai que mon livre, enfin, bon, je ne veux pas citer la revue de presse, mais Le Point avait notamment noté ça, parmi les aspects critiques, que c'était quand même le livre d'une droite assez bourgeoise. Même si il y a une rencontre avec Nicolas Sarkozy que je relate, et c'est vrai que lui, notamment, reproche à François Fillon de pas avoir un spectre aussi large que le sien et d'avoir su parler aux classes populaires, comme c'est vrai, Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2007, hein, on peut pas lui enlever ça, et il a cette phrase très sarkozienne, il dit « Les pauvres, c'est comme les juifs, c'est toujours les premiers qui trinquent », et laissant entendre qu'effectivement, il faut absolument être vigilant à ne pas laisser de côté les classes populaires. Maintenant, vous m'enlèverez pas de l'idée que une manière de convaincre tout le monde, ce sera aussi par l'esthétisation, par pouvoir offrir une droite séduisante. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout de l'indignation. C'était un peu d'ailleurs la stratégie de la campagne de Sarah Knafo à Paris, c'est-à-dire elle est convaincue, j'ai eu la discussion avec elle, ça y est, tout le monde a compris que l'insécurité est insupportable, tout le monde a compris que les juges faisaient pas leur boulot, tout le monde a compris que le modèle culturel français était vraiment dans un voie de disparition ou dans une situation intenable, mais que maintenant il faut, alors elle c'était voilà avec les couleurs, avec un message positif, avec des projets à très long terme,
des projets de patrimoine,
voilà, des magnifiques voies sur berge en 3D qu'on voyait effectivement et plus ou moins réalisables, mais qui effectivement qui donnait plus envie que la propreté au bord du canal Saint-Martin en ce moment. Et donc je crois que la droite doit séduire à nouveau, doit à nouveau effectivement s'habiller de ses plus beaux atours, et je crois pas du tout que les classes populaires soient insensibles à ça. Je pense juste que la droite a jamais fait cet effort, et quand la gauche l'a fait, ça ne l'a pas empêché, je veux dire, à l'époque de la gauche caviar triomphante et germanopratine, vous inquiétez pas que les ouvriers votaient beaucoup plus socialiste qu'aujourd'hui, où ils votent Marine Le Pen. Donc ça n'empêchait pas le Parti Socialiste et la gauche social-démocrate de l'époque de faire le plein de voix.
Stanislas Rigaud, est-ce que c'est pas ça un petit peu justement le secret de la droite? C'est réussir justement à séduire à nouveau. Est-ce que, comme Emmanuel Macron en 2017, il est pas temps justement de commencer à parler printemps en quelque sorte, aller vers l'avenir en disant on a compris ce qui allait mal, maintenant on va essayer de vous faire rêver avec ce qui va se passer après.
Bah, là où je nuance un tout petit peu, c'est que si tout le monde a compris le constat, tout le monde n'a pas compris quelle solution devait le combler. C'est-à-dire que oui, tout le monde a compris, en effet, je suis d'accord avec Tuguel Denis, qu'il y avait un problème d'insécurité, qu'il y avait un problème d'immigration, de fiscalité, etc. Maintenant, il y a aussi un sujet sur les solutions à apporter. C'est-à-dire que ce constat-là, en effet, je crois que tout le monde l'a fait. En tout cas, du bloc central, en gros, à ce qu'on qualifie de plan national, c'est un constat assez unanime. Pour suivre de très près le début de campagne d'Attal et de Philippe, ils font des campagnes assez droitières. Je prends un exemple, mais Attal s'est, semble-t-il, en tout cas, beaucoup inspiré de la campagne de Yeten aux Pays-Bas, donc qui est le premier ministre néerlandais, qui a fait une campagne sur deux jambes. La première, c'est le régalien, et le deuxième, c'est sur le progressif. Il était extrêmement fort sur le régalien, c'est-à-dire qu'il était vraiment sécurité à fond, immigration contrôlée, voire expulsion. Et puis de l'autre côté, c'était la pipolisation, c'était des lois très progressistes. Et Attal est en train, visiblement, d'essayer de dessiner un espace comme ça, c'est-à-dire qu'il sait que les faiblesses d'un Retailleau peut-être sur le conservatisme, il voit qu'il n'arrivera pas forcément à prendre Édouard Philippe totalement sur le régalien, donc il équilibre en faisant cela. Donc en tout cas, il y a ce sujet des solutions sur lesquelles il faut se mettre d'accord, et puis on parlait tout à l'heure des divisions. Si on croit réellement à l'urgence qu'on décrit à longueur de plateau, si on croit réellement au déclin de la France, qu'il soit démographique, économique, etc., oui, je crois qu'à un moment donné, il va falloir être capable de mettre les égaux de côté, et de travailler ensemble pour remporter électoralement une victoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les discussions de bar, les discussions de café, les discussions de plateau sur expliquer pourquoi et comment il faut gagner sans arriver à se rassembler à la fin autour d'une personne ou en tout cas autour d'un projet, c'est un peu dommageable.
Il y a un chanteur qui rassemble dans votre livre Tuguel Denis, et d'ailleurs je pense que les références parleront à tout le monde, c'est Jean-Pax Meffray. C'est assez amusant, parce que, alors moi personnellement Jean-Pax Meffray, ça a toujours été un chanteur qu'on connaît, qu'on a toujours écouté dans la voiture, etc. Mais c'est vrai que j'ai attendu de grandir avant de m'apercevoir à quel point ça a été beaucoup plus partagé, non mais beaucoup plus partagé que ce que je pensais. C'est-à-dire que moi j'étais persuadé qu'il y avait que nous qui écoutions ça, parce qu'en fait en réalité on était un petit peu seuls à écouter ça, et en fait plus on a...
Vous êtes allé à l'Olympia
En fait, Marquelle. Si vous voulez, après, j'ai déménagé plus tard dans l'Ouest parisien, comme tu dis, ils sont déménageant dans l'Ouest parisien 10-15 ans plus tard, que je me suis aperçu qu'en réalité, tout le monde connaissait, enfin beaucoup de monde connaissait Jean-Pax Meffray. Et c'est un petit peu la valeur commune, c'est un peu une valeur commune à droite, puisque toutes les personnalités de droite et du centre la connaissent, parce qu'elles sont toutes plus ou moins, pour beaucoup, passées par cette jeunesse-là. Comment Jean-Pax Meffray s'est devenu un symbole à droite aujourd'hui, Tuguel Denis ?
Et si
pas...
Comment ?
Et si c'était lui ?
Écoutez, Jean-Pax Meffray, c'est un destin, entre guillemets, incroyable, qui commence en Algérie. Son père avait été envoyé là-bas pour travailler, et il travaillait aussi en parallèle pour la CIA, pour les Américains. Bon, Jean-Pax Meffray grandit à Alger, et puis arrive les événements, comme on les appelle pudiquement, la guerre d'Algérie, la bataille d'Alger, et là il vit des drames fondateurs, la semaine des barricades, le terrorisme algérien. Il y a une scène que je raconte dans le livre qui vit quand il est enfant. Il avait été scolarisé évidemment à Alger, et puis un jour où il devait être en CE1, CE2, il retombe sur sa maîtresse de maternelle et qui le salue dans la rue. Lui est avec sa maman et il dit: alors ça va mon petit Jean-Pax, ça se passe bien à l'école? Et t'es plus sage maintenant et tout. Bon bref, ils se font quelques amabilités comme ça, ils rentrent dans une bijouterie avec sa mère. Bruit d'explosion dans la rue, il ressort et sa maîtresse était en torche. Elle venait d'exploser sous une bombe d'un attentat du FLN et des indépendantistes algériens. Il est évidemment il participe à la semaine des barricades, il est arrêté par l'armée française, il fait de la prison en France, enfin il débarque en France pour faire de la prison. Il se lance dans la chanson à une époque où finalement tout était encore possible, puisque très vite il va faire des radios crochets célèbres de l'époque, du genre H-Tendre et Tête de Bois, vraiment des émissions très populaires à l'époque, et il devient chanteur de variété. Et très vite, ça marche. Et en fait, comme en parallèle, il ne masquait rien de sa nostalgérie, comme il dit, et bien évidemment, au fur et à mesure, les radios refusent de le diffuser, les Zénith refusent qu'il se produise sur leur scène, et il subit ce qu'on a tous subi à des divers degrés, et ce que n'importe quelle personne de droite dans ce pays finit par vivre, et c'est pas du tout se victimiser de dire ça, il finit par vivre une opprobre sociale, il finit par vivre une injustice professionnelle du fait de ses idées qui sont pas moins défendables que je ne sais quelle personne de gauche, et donc il se reconvertit dans le journalisme, il finit par rechanter, mais ça a été toujours une carrière entravée par le sectarisme de la gauche qui refuse aux gens de droite d'avoir accès à certains métiers. Et ça dit beaucoup, parce que c'est sur une période qui couvre des années 60-70 jusqu'à maintenant. Alors maintenant, effectivement, un peu comme ce que Stanislas Rigaud décrivait tout à l'heure, avec un espèce de revival, parce que je crois qu'on aime beaucoup les anglicismes.
Oui, bien sûr,
il paraît qu'il faut mettre 50 euros dans une tirelire à chaque fois. Il y a une reviviscence de la droite, comme dirait Laurent Dandrieux, notre chef du service culture, et qui passe notamment par le succès des concerts de Jean-Pax Meffray à l'Olympia, et le fait qu'il a une espèce de seconde carrière sur le tard comme ça, mais ça restera quand même. Et d'ailleurs, il a une très belle chanson qui s'appelle Le Journaliste, où il explique que le jour où il meurt, il veut voir le plus de cartes de presse présents à son enterrement. Parce
le plus fou des rassemblements.
Et que ça sera le plus fou des rassemblements, mais parce que à la fin je suis désolé d'être fleur bleue comme ça, mais quand je dis tout à l'heure que ce livre c'est pas un livre de combat, de réparation, c'est aussi entre guillemets un cri d'amour, une demande d'amour, parce que même des gens comme Jean-Pax qu'on a vu passer, à la fin on a envie d'être reconnu par son milieu, à la fin on a envie d'avoir le droit aux mêmes récompenses sociales que les autres, et il y a quelque chose de très sensible chez Jean-Pax et en même temps de très blessé. Et c'est pour ça que je trouvais qu'il faisait clairement partie d'un personnage qu'on pouvait mettre à l'honneur dans ce livre.
Mais là où ce que vous dites est vrai, c'est pour poursuivre un petit peu cette comparaison, c'est que vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre, on sera jamais jury dans des prix littéraires, on n'aura jamais le prix Albert Londres, on se fait refouler à des obsèques. En fait, c'est même si il faut pas se plaindre et que etc. C'est quand même une réalité profondément injuste et enfin, je vous avais commencé le journalisme il y a une vingtaine d'années et c'est ça a été.
J'ai
ça,
toujours
quoi.
Pas décollé.
si,
mais regardez, on est le 25 juin, mon livre il est sorti le 21 mai. Rien qu'entre la période où est sorti mon livre et aujourd'hui, il y a eu la tribune anti-Bolloré des professionnels du cinéma. Il y a eu un communiqué de la SDJ sur le fait que Jenny Bassier rejoignait une émission politique où il y avait plein d'autres journalistes qui venaient. Il y a eu l'ostracisation du RN à la panthéonisation de Marc Bloch. Enfin, si vous voulez, tous les jours, en fait, ces gens-là nous donnent l'occasion de leur, si on leur tend un miroir, de leur montrer à quel point ils sont sectaires et violents même.
Oui, mais c'est là où peut-être, enfin, je sais pas,
ça se reste un très rapidement, temps,
mais,
ouais,
très rapidement mais c'est là où je trouve qu'il y a une forme un peu de naïveté. C'est-à-dire que moi, je n'attends rien de ces gens-là. C'est-à-dire que la SDJ du service public, pour être un peu vulgaire, je m'en cogne. La vie d'une vieille pantonisation, honnêtement, aujourd'hui, je m'en cogne. Je crois que c'est Buisson à Clause du Peuple qui, à la fin, en parlait en disant que c'était finalement un endroit pas si bien fréquenté que ça. Et ça, évidemment, de la provocation. Mais je crois qu'on attend aussi beaucoup de ces gens-là qui, à la fin des fins, plus on les regarde avec une forme de misérabilisme, en essayant d'être tendre avec nous, de leur donner des gages, plus ils nous frappent fort et plus ils nous mettent au sol. Et, et je parle pas en l'occurrence de votre livre.
Ouais, parce que franchement, moi je crois que je demande de nous donner des gages. Mais par contre, je revendique le droit à dire que nous sommes parfois persécutés. Quoi.
Je pense que nous le sommes, mais je crois que nous le sommes aussi beaucoup par de notre simple fait à attendre quelque chose d'eux et donc à souffrir de leur refus de considération. C'est-à-dire que moi, honnêtement, je n'attends pas quand je vais sur. Enfin, ou quand je discute avec un journaliste de Libération. Je n'attends pas de gage de sa part, je ne m'attends pas à le convaincre, je viens lui dire ce que je pense, et à l'inverse, je crois profondément que
lui. Mais vous êtes invité sur Service Public aussi, alors vous pouvez.
Oui, mais vous aimez quand un journaliste de Libération non pas est convaincu, mais en tout cas respecte votre parole.
Aussi le rapport de force, j'ai l'impression qu'il y a ce rapport de force qui peut s'exercer avec ces gens-là, si tant est qu'on. Enfin, je parlais pas autour de votre
mais
c'est un concept plus global. Ouais.
Tuguel Denis, auteur de La Cendre et le Feu aux éditions Robert Laffont. Vous pouvez évidemment vous procurer cet ouvrage dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, Marc.
Et restez avec nous, chers auditeurs, puisque dans quelques instants, nous recevrons Nicolas Battini, président de Mossa Palatina. À tout de suite.